Bonjour. Vous m'entendez? Super. D'ailleurs, je me présente, je m'appelle Dimitri. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens de l'église de Saint-Maur, l'autre église à Saint-Maur. Et voilà, je suis très content d'être ici avec vous. Je vous transmets aussi les salutations de l'église de Saint-Maur. Et je sais que dans le passé, j'ai déjà participer à différentes activités ici avec vous et je suis très content d'être là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Et si je ne me trompe pas, vous aussi, vous suivez une série sur l'évangile de Marc et c'est ce que nous aussi nous faisons à l'église de Saint-Maur. Et le texte qui nous concerne, c'est dans Marc 9, 14 à 29 que Alain vient de nous lire. J'aimerais commencer ce temps par vous poser une question. Qui s'est déjà trouvé dans une situation embarrassante, à tel point que vous avez dû faire appel à un proche, un ami, à un collègue, pour vous aider à sortir de cette situation embarrassante? Qui s'est déjà trouvé dans une situation embarrassante, une situation gênante, que vous avez dû faire appel à quelqu'un pour vous aider à sortir de cette situation? C'est ce que les disciples vont vivre ce matin dans notre passage. Cela fait déjà un peu plus de 2 ans que les disciples y suivent Jésus. Cela fait un peu plus de 2 ans qu'ils voient Jésus à l'action. Ils entendent sa prédication, ils voient Jésus engager des discussions avec les responsables religieux. Et ils sont témoins de ces miracles. Les disciples, ils suivent Jésus. Les disciples, en fait, ils marchent, ils vivent par la vue, puisqu'ils voient, en fait, ils sont témoins de tout ce que fait Jésus. Mais dans Marc 8, 31, il y a un tournant. Jésus-Christ, il annonce à ses disciples qu'il va bientôt les quitter. Jésus se dirige vers Jérusalem. Inévitablement, Jésus va vers sa mort, sa résurrection et son ascension. Avant son départ, Jésus a des enseignements importants à communiquer à ses disciples et à nous ce matin. Avant son départ, Jésus veut les enseigner une série de leçons destinées à les préparer à le servir lorsqu'il ne sera plus là. Et la leçon qui concerne ici notre passage et sur la foi. Alors, l'épisode, en fait, se déroule tout de suite après la transfiguration. Vous savez, dans la transfiguration, à un moment, Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean à la montagne. Et Pierre, Jacques et Jean, ils ont été témoins, justement, de la gloire de Jésus, justement, dans cette montagne. Jésus-Christ n'est pas présent au début de l'incident, mais j'aimerais quand même que vous notiez en fait le contraste qui existe entre ce qui s'est passé dans la transfiguration et notre texte actuellement. Dans la transfiguration se déroule à la montagne, tandis que ici, dans notre passage, l'incident, en fait, il a lieu au pied de la montagne, avec les 9 autres disciples. Dans la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean voient Jésus dans toute sa gloire. Mais ce qui ressort ici dans notre passage, c'est la souffrance. Dans la transfiguration, c'est Dieu qui domine la scène. Tandis que ici, dans notre passage, ce sont les activités démoniaques. C'est le diable qui domine la scène. Dans la transfiguration, nous voyons le Père céleste qui exprime son amour, son désir envers son fils, son plaisir envers son fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Tandis que dans notre passage ici, nous avons un père terrestre qui est en souffrance à cause de la situation de son fils. Dans la transfiguration, Jésus, le fils de Dieu, est au centre de la scène. Tandis que dans notre passage, nous avons ici un fils qui est maltraité. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la scène initiale? Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Après la transfiguration, Jésus, Pierre, Jacques et Jean, ils descendent de la montagne et ils vont rejoindre les 9 autres disciples qui étaient restés. Lorsqu'ils arrivent, il y a beaucoup d'animation, il y a beaucoup de tumulte, beaucoup de discussions. Sans doute à ce moment-là, les 9 autres disciples, ceux qui étaient restés, ils étaient en difficulté. Ils étaient en difficulté parce que ils n'ont pas pu chasser le démon. Ils n'ont pas pu chasser le démon de cet enfant. Ils étaient également sous le feu des critiques. Le texte nous parle de la présence de scribes qui étaient là, qui sont également présents. Ces derniers pouvaient facilement critiquer les disciples et remettre en cause leur autorité, leur témoignage. Ils remettaient aussi en cause l'autorité de Jésus lui-même. Et c'est à ce moment que Jésus, il rentre dans la scène. De quoi discutez-vous avec eux? Face au silence gêné des disciples, un homme prend la parole. Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Nous sommes ici face à une activité démoniaque. Alors moi personnellement, je n'ai jamais été confronté ou témoin de ce genre de situation, à part à la télé ou dans certains films. Mais j'aimerais vous dire que c'est une réalité. Les démons, les mauvais esprits, qui sont sous l'ordre de Satan, ils agissent dans notre monde. Ils se déguisent en anges de lumière et profitent de nos failles humaines, de nos failles personnelles pour nous faire du mal. Et ce qui est étonnant de noter ici dans ce passage, c'est que le Père, en fait, il associe la situation, la condition de son fils à une activité démoniaque. Lorsqu'on lit la même histoire dans les autres évangiles, Matthieu et Luc diront par exemple que cet enfant il est lunatique, il est épileptique. Mais ce qui est intéressant de noter ici, c'est que le père, il associe justement ce qui arrive à son fils à une activité démoniaque. Les disciples, ils étaient en difficulté. Ils n'ont pas pu chasser le démon de cet enfant. Et Jésus va leur adresser des reproches. Génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. L'incapacité des disciples à chasser le démon de cet enfant est due à leur manque de foi. Ils n'ont pas pu rééditer leur performance comme dans Marc 6. Nous voyons dans les chapitres précédents, dans Marc 6 en particulier, nous voyons Jésus qui envoie ses disciples en mission, annoncer la bonne nouvelle et avec l'autorité de chasser les démons. Sans doute, les disciples, ils étaient stimulés par leur succès passé. Ils ont voulu s'appuyer sur leur propre capacité personnelle au lieu de dépendre de Dieu et de sa puissance. Nous aussi, nous pouvons tomber dans ce piège. Nous aussi, nous pouvons tomber dans ce piège. Combien de fois, nous aussi, dans notre vie chrétienne, nous nous reposons sur nos capacités personnelles, nos capacités intellectuelles pour l'œuvre de Dieu. Combien de fois nous commettons cette erreur? Déçu par l'incapacité de ses disciples, Jésus demande qu'on lui amène l'enfant. Et s'ensuit en fait un échange entre Jésus et le Père. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Demanda Jésus à son Père. Depuis qu'il est tout petit, souvent même l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Alors Jésus lui pose cette question, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. Dieu, il est omniscient. Mais ce que Jésus attend du Père, c'est qu'il veut entendre sa souffrance. Il veut partager sa souffrance. Imaginez le désespoir de ce Père, impuissant face à une telle situation. Sans doute, ce Père, il est allé voir plusieurs médecins, plusieurs spécialistes, des psychologues, et pourquoi pas des exorcistes pour guérir son fils. Et toujours pas de remède. Sans doute pour ces personnes, le cas de son fils était désespéré. Et peut-être lui aussi, il commençait à perdre espoir de guérison de son fils. Dans le passé, nous voyons aussi que le Père, il doute. Il doute. La foi du Père est faible et incomplète. Le Père, il se rend compte que Jésus est désireux de délivrer son fils, mais n'est pas sûr qu'il en est capable. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. Et c'est là la leçon de ce passage ici. Tout est possible à celui qui croit. Le problème des disciples, le problème ici dans notre passage, c'est le manque de foi. Et la leçon que Jésus veut donner à ses disciples ce matin est que la foi est essentielle pour accéder à la puissance de Dieu. Encore une fois, l'enjeu ici, c'est que Jésus va bientôt partir et les disciples vont devoir apprendre à vivre sans sa présence. Ils vont devoir apprendre à vivre dans la dépendance à Dieu. Ils vont devoir apprendre à vivre par la foi. Nous aussi, nous sommes dans la même situation que les disciples. Nous croyons en un Dieu que nous n'avons jamais vu. Nous croyons également en un Christ que nous n'avons jamais vu et au Saint-Esprit que nous n'avons jamais vu. Nous croyons en la mort et en la résurrection que nous n'avons pas encore vue. Nous croyons en la vie éternelle. La vie chrétienne, c'est une vie par la foi. Les croyants sont sauvés par la foi et c'est un don de Dieu. La foi se vit dans la dépendance à Dieu et cette dépendance se vit et se pratique dans la prière. Paul écrira aux Corinthiens que nous marchons par la foi et non par la vue. Galates 2:20 nous dit que, c'est encore une fois, c'est Paul qui parle aux Galates, il nous dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le Père, il reconnaît son manque de foi. Aussitôt, le Père de l'enfant s'écria : Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. Regardez ici le contraste entre l'attitude du Père et celui des disciples. Entre la confiance mal placée des disciples, le Père, lui, reconnaît son manque de foi et crie à Jésus de venir au secours de son incrédulité. De même qu'il a supplié de toutes ses forces à Jésus de délivrer son fils de la puissance du démon, il le supplie maintenant de venir au secours de son manque de foi. Nous qui sommes chrétiens, nous qui avons placé notre confiance à Dieu, nous aussi nous pouvons vivre des moments de doute. Il y a des moments en effet où dans notre foi, nous sommes au top. Nous sommes encouragés, nous vivons des expériences extraordinaires avec Dieu. Mais il existe également des moments où nous doutons, où notre foi est vacillante, assaillie, attaquée par l'ennemi. Notre foi n'est pas parfaite, notre foi peut être faible, mais Dieu n'est pas limité par notre manque de foi. Lorsque nous sommes assaillis par le doute, lorsque nous sommes assaillis par le doute, ayons la liberté de les porter à Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ qui est la source de notre foi. Et d'adresser cette même prière que le Père. Aide-moi, car moi aussi je manque de foi. Et Jésus, en fait, il va chasser cet esprit de cet enfant. Il va le faire avec autorité. Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tient debout. La foi du Père a été récompensée. La foi du Père a été récompensée. Sa foi a été récompensée parce que Jésus-Christ a répondu à sa prière. Vers la fin, les disciples, lorsqu'ils seront finalement en tête à tête avec Jésus, ils vont lui demander, mais finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Jésus leur dira que ce type d'esprit, ce sont des durs à cuire. On ne peut que les chasser par la prière. La foi se vit dans la dépendance à Dieu. Et cette dépendance se pratique dans une vie de prière. Le problème des disciples, c'est leur négligence dans le domaine de la prière. Qu'en est-il de notre vie de prière à nous? Qu'en est-il de notre vie de prière personnelle et aussi de notre vie de prière communautaire? Jésus nous montre ici que nous ne pourrons pas faire avancer l'œuvre de Dieu sans la prière. Prier est le signe que nous dépendons de Dieu. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de son amour pour grandir et marcher dans la foi. Jésus dira dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous faisons face à de nombreux défis dans notre vie chrétienne. En attendant le retour de Christ, c'est le moment d'exercer notre foi. C'est le moment de la mettre en pratique. Dieu ne nous demande pas une foi parfaite. Mais si nous avons la foi comme une graine de moutarde, elle est suffisante pour faire intervenir la puissance de Dieu dans notre vie. Et c'est ce que nous voyons ici avec le père de cet enfant. Et c'est la leçon que Jésus-Christ a voulu enseigner aux disciples. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ce rappel qui nous dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans notre vie. Nous te demandons pardon pour les nombreuses fois où nous avons voulu vivre notre vie chrétienne sans dépendre de toi, sans dépendre de ta présence et de ton esprit. Nous te prions, grand Dieu, de venir à notre secours, de venir à notre aide lorsque nous faisons face à des moments de doute, lorsque nous faisons face à des moments de difficulté. Nous te remettons, Seigneur Dieu, notre vie. Je te prie, grand Dieu, de nous donner l'opportunité de mettre notre foi en pratique. Je te prie aussi, grand Dieu, de nous apprendre également à dépendre de toi. Amen.